prenez à sa place d'élu, merci, afin qu'on puisse commencer. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie de vous être rendus disponibles pour ce dernier conseil du semestre. Alors, nous avons les absences excusées avec procuration de Pierre Achard, qui a donné procuration à Antoine Di Paolo. Michel Bisaccia, qui m'a donné procuration. Corinne Mourgue, qui a donné procuration à Rémi Mounier. Marc Joty, qui a donné procuration à Claude Bruno. Et Fabrice Adam, qui a donné procuration à Christine Gueuzens. Il y a d'autres absents, mais pour lesquels je n'ai pas de procuration. Donc, on va passer à l'ordre du jour. Le premier. Mais non, mais pas. Oui, on verra après. Donc, premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ce procès-verbal ? Qui était celui de la séance du 9 mai, puisqu'on ne parle pas de celle dédiée à l'élection des grands électeurs. Pas de remarques, on va le soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Comme d'habitude, on va demander à Mireille Papin si elle veut bien assurer le secrétariat de la présente séance. Merci. Le premier point, c'est l'état des décisions du maire. Vous savez qu'on les décisions que je prends et que je vous retransmets, vous avez vu qu'il y en a beaucoup avec des très gros montants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont toutes les ordonnancements liés aux travaux, au lancement du travaux du chantier Jules Ferry qui avance bien. Souhaitons que ça puisse continuer comme ça. Donc vous avez l'ensemble des entreprises point par point pour des petits montants ou des montants beaucoup plus importants. Je prends par exemple un lot à 640 000 euros pour chauffage ventilation avec Energeco. Et puis on a des montants beaucoup plus importants. 667 000 le lot de plâtrerie, peinture, faux plafond, etc. Donc ce sont l'ordonnancement pour l'ensemble des décisions. Le point 2 concerne la désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Conformément à l'article R7 du Code électoral, les membres des commissions de contrôle des listes électorales, prévus à l'article L19 du Code électoral, dans chaque commune, sont nommés après chaque renouvellement intégral des conseils municipaux pour une durée de 3 ans. Le renouvellement intégral des conseils municipaux est intervenu le 15 mars 2020, en ce qui nous concerne. Pour les élections acquises au premier tour et le 28 juin 2020, pour celles acquises au second tour, la composition des actuelles commissions de contrôle des listes électorales a été arrêtée en 2020 et les mandats de ses membres vont par conséquent expirer cette année, 2020 jusqu'à 2023. Il y a donc lieu cette année de procéder à une nouvelle nomination par arrêté préfectoral des membres de la commission dans chaque commune. L'article L19-7, premier alinéa du Code électoral, prévoit que dans les communes où une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal, ce qui est notre cas, lors de son dernier renouvellement, la commission est composée conformément à l'article L19-4 de un conseiller municipal, le maire, maire adjoint, titulaire d'une délégation, et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur les listes électorales ne peuvent siéger au sein de la commission. Donc un délégué de l'administration désigné par le préfet et un délégué désigné par le président du TGI, tribunal de grande instance. Je vous propose donc de désigner M. Claude Bruno, adjoint, comme membre de la commission de contrôle des listes électorales. Avez-vous des remarques à faire par rapport à cette proposition ? Donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc Claude Bruno est membre de la commission à l'unanimité. Et je vous en remercie. On va passer maintenant au secteur finance et je vais demander peut-être à Rémi de présenter la subvention exceptionnelle pour l'association Saint-Prié Escalade.
Oui, bonsoir, Rémi Mounier. À l'ordre du jour du conseil municipal, nous avons une subvention exceptionnelle pour l'association Saint-Prié Escalade. Depuis la cession à la région du gymnase du lycée Simone Veil, nous avons toujours une association qui occupe ce gymnase, l'association d'escalade, puisque le gymnase est doté d'un mur d'escalade. Et à ce titre, on participe aux frais d'entretien facturés par le lycée Simone Veil. Donc toutes les années, en fait, le lycée émet un bon à payer auprès de l'association. Et nous, l'association, nous émet une demande de subvention exceptionnelle. C'est le contrat qu'on avait passé avec l'association, sachant que le lycée ne peut pas nous facturer, nous, directement, collectivité. Donc on prend en charge ces charges d'entretien qui sont facturées à l'association. Donc je vous propose de verser une subvention exceptionnelle de 2072 euros. Donc c'est le montant exact qui est demandé à l'association Saint-Prié Escalade pour la prise en charge de la redevance d'occupation du gymnase Nord pour la saison 2022-2023.
Donc c'est une décision, un complément de subvention, donc subvention à caractère exceptionnel, qu'on leur accorde chaque année sur réception de la facture. Des questions par rapport à cette subvention complémentaire exceptionnelle ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc elle est accordée à l'unanimité. Je vous en remercie. Tu veux présenter la suivante ?
Oui. Autre subvention exceptionnelle, cette fois c'est pour le cercle sportif de Saint-Prié, qui a organisé les 7 et 8 juin dernier les championnats de France vétérans de boules lyonnaises en FSCF. Et pour participer aux différents frais qu'engendrait cette organisation, il nous demande une subvention exceptionnelle de 400 euros.
Je vous propose... Ils ont fait parvenir un état des dépenses de 420 euros. Donc on a arrondi la demande de subvention à 400 euros. C'était le championnat de France catégorie vétéran. Des questions ? Donc là aussi, ça fait partie de tout un ensemble de subventions à caractère exceptionnel dont on vous parle quand on vous présente les demandes de subventions annuelles, en vous disant, voilà, c'est les subventions de fonctionnement, mais pour telle et telle et telle association, il y aura vraisemblablement une subvention exceptionnelle, et donc on les passe au fur et à mesure, et les dernières, on les passe en septembre. Donc qui est contre cette subvention complémentaire ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc elle est accordée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, je passe la parole à Christine Gezins. Oui, c'est bon. Les tarifs de l'École municipale des arts pour 2023-2024.
Bonsoir, Christine Gezins. Donc, par délibération en date du 4 juillet 2022, le Conseil municipal avait fixé les tarifs de l'École municipale des arts à appliquer à la rentrée 2022-2023. Aujourd'hui, il convient de procéder à la réactualisation des tarifs de l'école à appliquer à la rentrée prochaine en septembre 23. Donc, il a été décidé d'augmenter ces tarifs de 5%. Donc, tous les tarifs ont été augmentés de 5% par rapport à l'an passé et arrondis à l'euro supérieur. Donc, vous avez comme d'habitude les tarifs pour les résidents, à la fois pour l'activité musique, danse jazz, bien sûr, et hip-hop. Et puis, nous avons aussi l'activité art dramatique, le théâtre, et peinture et dessin. Ensuite, nous avons les tarifs pour les élèves extérieurs de la commune, aussi bien donc activité musique et danse, et puis les différents ateliers, dessin, danse hip-hop, pardon, dessin et puis théâtre. Voilà. Donc, ces tarifs, ils sont à la fois par an, par trimestre et par semaine. Par semaine, ça, c'était dû au Covid à l'époque, puisqu'on avait dû facturer à la semaine. Mais bon, maintenant, on facture en général au trimestre. Au trimestre échu. Voilà.
Quand on a parlé d'actualisation des tarifs de l'EMA, on a été aussi confronté à une situation d'un certain nombre de parents, on va dire, d'adhérents qui ne payent pas leur trimestre. Donc l'idée est la suivante. Alors, le Trésor public nous disant, en cas de non-paiement, on doit émettre un titre, ils se chargeront du recouvrement. Okay. Et après, vous savez que quelques années après, on les voit arriver en émission en non-valeur, parce que c'est des montants relativement modiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les familles les plus défavorisées qui ont du mal à payer. Donc l'idée, c'est qu'au bout, qu'est-ce qu'on a dit, Christine, 2 ou 3 non-paiements, on allait exclure les gens de l'école municipale des arts. Voilà. Pas s'amuser à mettre en place des situations.
Viviane, elle leur envoie un premier courrier, un deuxième courrier, et c'est vraiment, c'est pas du tout des personnes qui sont en difficulté, c'est de la négligence, quoi. Ouais.
Et on va mettre en place, sans doute, une dématérialisation des modes de paiement.
Voilà.
Possibilité de payer par Internet. Là aussi, ça sera aussi un argument pour dire, ah bah oui, mais quand je suis venu déposer mon chèque, c'est déjà fermé, quoi. Voilà. Donc, c'est une augmentation de 5% arrondie à l'euro supérieur. Des questions par rapport à ça? Oui? Non, le règlement prévoit que ce soit à terme échu, parce qu'après...
On a modifié justement ce règlement.
Ouais.
Parce que... toujours à cause du confinement, quoi. Parce que les gens payaient à l'avance et puis, en fait, il n'y avait pas de cours. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que ça a été modifié depuis le confinement.
Et après, il fallait actualiser, réémettre pour le trimestre suivant, mais actualiser le non consommé, je dirais, du trimestre précédent, c'était ingérable, en fait. Donc on préfère payer le trimestre, enfin, demander le paiement du trimestre à terme échu, qui correspond à une véritable, je dirais, prestation proposée. D'autres questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, les nouveaux tarifs de l'EMA sont validés à l'unanimité et je vous en remercie. Tarif du centre de loisirs. C'est Sylvie qui nous présente le dossier.
Bonsoir. Du coup, le point suivant de l'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est la modification des tarifs des séjours organisés pour les enfants de la commune sur l'année 2024. Et également les tarifs du centre du loisir et de l'école du sport. Monsieur le maire expose, comme chaque année, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la commune organise des activités pour les enfants de la commune, pour les vacances scolaires, en séjour et en centre de loisir. La participation demandée aux familles varie selon leurs facultés contributives et elle est fixée par le conseil municipal selon 5 barèmes et en corrélation avec les engagements de la CAF de la Loire. Il convient donc de fixer dès à présent le prix de ces séjours du centre de loisirs municipal et de l'école du sport. Afin de pallier l'augmentation du coût des activités, les tarifs subiront une légère augmentation. Pour mémoire, un séjour vacances ou une journée au centre est payé un tiers par les familles, un tiers par la CAF et l'autre tiers par la municipalité, la commune. Voilà, donc la participation des familles sera donc la suivante. Donc concernant le séjour hiver 2024, au niveau de l'échelle, les familles qui ont le plus bas coefficient paieront 247 euros et le plus haut coefficient, on sera à 376. Ensuite, concernant le séjour été, la fourchette va de 181 euros à 274 euros. Ce sont pour les plus jeunes. Et ensuite, pour les ados, donc 15-17, on part de 190 euros et on monte à 354 euros. Voilà, en gros les tarifs ont été augmentés, comme pour l'école municipale des arts, de 5%. Concernant le centre de loisirs, là c'est pareil, c'est en fonction du coefficient familial. On a un tarif pour les habitants de Saint-Prié et un tarif pour les extérieurs. Donc après je ne vais pas vous détailler tous les tarifs, mais vous voyez par exemple pour la fourchette la plus basse, c'est-à-dire un coefficient familial inférieur à 500 pour un habitant de Saint-Prié, sur une demi-journée, on est de 1,50 € et 1,70 € en fonction si c'est le matin ou l'après-midi. Le repas de 2,20 €. Pour un extérieur, on passe. Bah, pour un extérieur, c'est la même chose. Et ensuite, pour la fourchette la plus haute, on est de. Pour un habitant de Saint-Prié, on est à 5,03 ou 5,50 en fonction du matin ou de l'après-midi et 4,70 le repas. Et pour le coefficient le plus haut, on est à 7,23 pour les extérieurs, 7,23 ou 7,72 en fonction du matin ou de l'après-midi et 5,85 pour le repas. Voilà. Après, on a l'école du sport. Donc là, il y a deux tarifs en fonction qu'on habite ou pas la commune. 126 euros par an, donc ça c'est un tarif annuel. 126 euros pour les habitants de Saint-Prié et 158 euros pour les extérieurs. Et en fonction effectivement s'il y a des places qui sont disponibles. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous préciser, Rémi ou Sylvie, les activités qui sont prévues pour la prochaine saison pour l'école du sport ? Non, mais de mémoire, je sais pas.
On a un programme l'année prochaine pour l'école du sport qui est axé un peu Jeux Olympiques, avec des sports qui vont être un peu nouveaux, qui vont sortir de l'ordinaire. On va avoir du rugby, on va avoir de l'escrime et tennis de table, il me semble aussi.
De table, rugby.
Boxe,
ouais.
Boxe et il doit nous en manquer. Non, c'est la boxe, justement. Mais on a aussi un des sports extrêmes qui ressort, qui est un nouveau sport entrant au JO. Je ne sais pas si c'est pas le hip-hop, d'ailleurs.
Très bien. Avez-vous des questions sur cette actualisation du tarif donc pour l'enfant jeunesse? Alors, même principe, 5%. Avec une problématique, c'est que les tarifs des repas qui sont précomptés sont en dessous du tarif des repas des écoles. Ça tient simplement à l'histoire. À une époque, les tarifs du Pôle enfant jeunesse étaient validés dans le cadre du partenariat avec la CAF. Donc on était en dessous de ce que nous, on met en place pour le périscolaire cantine-école. L'idée, on a travaillé dessus avec Rémi et Sylvie, c'était d'essayer de rattraper le tarif cantine, parce que c'est le même repas, alors que pourquoi payer 2,20 € quand on est au centre et puis peut-être 4,50 € quand on est à l'école. Bon, ça va être très très difficile de rattraper ce retard, ce décalage, ou alors ça ferait des progressions beaucoup trop importantes sur les petites tranches. Donc l'idée est quand même là d'essayer de grignoter petit à petit une tarification qui soit à peu près un peu plus homogène. Voilà, des questions ? Donc, qui est contre cette actualisation tarifaire? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, ce nouveau tarif, ce nouveau barème est appliqué. Et donc, pour l'école du sport, à partir du 22 août 2023, pour la rentrée. Le dossier suivant concerne les demandes de subvention de la commune. Par délibération 22-06-04 du 7 juin 2022 et 23-05-08 du 9 mai 2023, le Conseil municipal a validé le projet d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et a sollicité pour ce projet une aide financière auprès de Saint-Étienne Métropole au titre du plan de relance métropolitain 2021-2023. Je vous rappelle qu'il est prorogé jusqu'au 30 juin 2024. Si à ce jour, le montant global de ce projet est fixé avec précision en l'espèce 4 607 110 euros hors taxe, la commune ne connaît pas encore le montant exact des subventions qu'elle a sollicitées auprès de ses différents partenaires, à savoir l'État, la région et d'autres. Le montant du fonds de concours de Saint-Étienne Métropole avait ainsi été estimé à 1 428 205 euros, soit 50% de la somme restant à la charge de la commune, déduction faite des autres aides prévues. C'est-à-dire qu'on avait un budget estimé, on avait déduit artificiellement des subventions estimées, et le reste à charge qui est communal était partagé pour moitié entre la commune et pour moitié par Saint-Étienne Métropole. Les services de Saint-Étienne Métropole nous ont informé que selon les règles d'instruction et d'attribution du plan de relance, le montant du fonds de concours prévu dans le plan de financement prévisionnel serait figé et fixé à la somme de 1 428 205 euros. Et ce, même si le montant des autres subventions sollicitées était inférieur ou nul. C'est-à-dire qu'ils prennent le chiffre demandé dans le premier budget et ils le bloquent. Je commenterai un petit peu plus loin. Compte tenu de ces nouvelles informations, et pour être certaine de percevoir un fonds de concours correspondant au moins à 50% du montant restant à la charge de la commune, cette dernière n'a d'autre solution que de modifier son plan de financement et de ne prévoir aucune subvention autre que celle de Saint-Étienne Métropole. Le nouveau plan de financement est donc le suivant. Donc vous avez tout le détail des dépenses pour un montant global de 4 607 110 euros. Et donc, on divise par deux, après neutralisation, je crois, du poste mobilier, pour arriver à un financement fonds de concours de Saint-Étienne pour 2 265 521 euros, soit 49% du coût global, et pour la commune de Saint-Priest-en-Jarez, 2 341 589 euros, soit 51%. La commune étant maître d'ouvrage de cette opération, il demandait au conseil municipal de solliciter pour ce projet une aide financière auprès de Saint-Étienne Métropole au titre du plan de relance métropolitain 2021-2023, d'un montant de 2 265 521 euros, soit 49% des dépenses totales éligibles, et de m'autoriser à déposer le dossier de demande de fonds de concours correspondant et à signer tout document relatif à ce dossier et à cette demande de subvention. Donc, dans un dossier comme ça ou dans d'autres, l'idée, c'est quand même d'aller optimiser les demandes de subvention, que ce soit l'État, le département, la région ou d'autres acteurs, comme par exemple des fonds européens. Et là, on a été très surpris de voir qu'en définitive, les subventions qu'on avait calculées, mais de façon très, très empirique, en disant voilà, ça sera 18%, 19%, au regard aussi de ce que les autres communes avançaient dans le plan de relance, c'était une estimation. Tant qu'on n'a pas reçu les notifications de subventions, alors celles qu'on attend, à savoir et de l'État et de la région, pour nous, on est encore dans un budget estimatif. Et Métropole nous a dit non, la quote-part, la moitié du reste à charge que vous avez mis pour le plan de relance, on le fige. Je m'en suis entretenu avec Madame Nora Berroukage, vice-présidente en charge des affaires financières et de l'économie. Je lui dis c'est totalement stupide parce que ce n'est qu'à la fin de l'opération, parce que c'est pareil, même dans les dépenses, on peut avoir des surprises, on sait bien, on en aura sans doute. Quand on aura eu l'ensemble des factures payées, l'ensemble des subventions déduites, qu'on connaîtra le réel reste à charge pour la commune, et donc divisé par deux, moitié commune, moitié métropole. Elle m'a dit oui, mais apparemment, m'a-t-elle dit, c'est la règle qui avait été prévue. Je dis, c'est peut-être la règle qui a été prévue, mais ça n'a pas été la règle qui a été annoncée. Partout, on a dit, ce qui reste à charge de la commune, c'est divisé par deux, à l'heure ou près. Bon. Donc, pour ne pas être pénalisé, alors je lui ai dit, vous allez avoir 60 ou 62 millions de participation en cas du plan de relance, et vous n'allez dans la réalité en payer que 50. Elle me dit, oui, ça doit être à peu près ça. Je ne vois vraiment pas l'enjeu politique de cette situation. Bon, bref. Donc, pour ne pas être pénalisé et avoir un montant bloqué, on a refait en fait le montage budgétaire. On a exclu les subventions pour dire, ben voilà, il y a un reste à charge globale, comme si on n'avait rien, et on divise par deux. Voilà. Donc, on est obligé de vous proposer ce montage pour le présenter donc, à Métropole. Alors, j'ai regardé, j'en ai discuté avec d'autres maires, ils m'ont dit, oui, ben, on est obligé de faire pareil. Dans les dossiers qui passent à la Métropole, il y en a où ils maintiennent les subventions, mais comme a dit Frédéric, c'est peut-être des communes qui ont reçu les notifications de subventions, donc là, elles sont certaines de l'avoir, mais celles qui ont un doute, ben, elles ont mis zéro. C'est surprenant comme démarche, mais enfin, c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous demande de valider ce nouveau budget et donc cette recherche de financement pour l'école, pour le groupe scolaire Jules Ferry. Avez-vous des questions? Donc vous avez tout le détail poste par poste. Hein, là, on est sur des chiffres qui sont figés. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, cette nouvelle demande de subvention est validée et sera transmise auprès de Saint-Étienne Métropole. Merci. Le point suivant. Christine, tu veux le... Non, je ne sais pas, tu veux le faire? Je le fais, alors. Lors de la séance du 22 juin 2020, le Conseil municipal a approuvé la convention définissant les modalités de la mise à disposition de Mme Marie-Aline Bayon, professeure de musique au sein de l'École municipale des arts, entre la ville de Saint-Priest-en-Jarret et l'association École de musique de Solors. Cette convention arrive à son terme et l'École de musique de Solors, ainsi que Mme Marie-Aline Bayon, sollicite le renouvellement de cette dernière à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024 avec reconduction à deux reprises. Donc c'est un professeur de musique ou de guitare qu'on met à disposition d'une association musicale, en l'occurrence celle de Solors. Donc voilà, on la rétrocède. Et donc cette convention arrivant à échéance, on vous demande de vous la renouveler. Donc la demande émanant et de l'école municipale, de l'école de musique de Solors et d'intéressés. Je vous demande d'approuver cette convention et d'autoriser à la signer. Des questions ? Donc voilà, c'est simplement une reconduction de contrat de mise à disposition. Alors sachant quand même que le professeur de guitare qu'on avait embauché pour la remplacer nous quitte également. On l'a pris la semaine dernière, donc on va en recruter un autre pour le remplacer pour la rentrée. Il y aura toujours un prof de guitare à la rentrée. Des questions par rapport à cette convention ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc la convention est reconduite à l'unanimité et je vous en remercie. Tu veux parler du service civique ?
Oui. Alors, je voulais faire une petite précision, monsieur le maire, comme vous m'avez pris un peu de cours sur votre précédente question sur le programme de l'école du sport. Alors, pour la saison 2023-2024, j'ai retrouvé le programme. Donc, nous aurons sur la période du 6 septembre au 18 octobre du rugby à 7, sur la période du 8 novembre au 20 décembre du breakdance, sur la période du 10 janvier au 14 février de l'escrime, du 6 mars au 10 avril, nous aurons du handball et du 15 mai au 3 juillet, de la boxe éducative. Voilà pour le programme de l'année prochaine sur l'école du sport. Et ça permet de faire le lien avec la délibération.
Je te coupe, Rémi. La question que je me posais en posant la question, sachant qu'il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place dans le cadre des JO, il y a des financements, est-ce qu'on ne peut pas nous inscrire qu'on fait dans le cadre de l'école du sport pour aller chercher une
subvention. C'est prévu.
C'est prévu ?
C'est prévu.
D'accord, très bien. Là, il y a des sous à aller chercher, donc on ne va pas s'en priver.
C'est prévu.
Merci.
Donc, ça permet de faire le lien avec la délibération suivante, donc, qui concerne l'accueil justement de l'école du sport. Donc, comme vous l'avez compris, l'année prochaine, on aura quelques sports un peu atypiques et on va faire intervenir des prestataires pour encadrer les jeunes. Pour autant, on a toujours besoin de personnel encadrant pour l'accueil et pour ramener au centre les participants à l'école du sport. Et du coup, cette année, on va venir prendre un service civique pour justement venir pallier aux deux personnes que l'on a besoin en tant qu'animateur pour l'école du sport. Donc, je vous énumère la délibération. Donc, monsieur le maire propose de se prononcer sur l'accueil de personnes volontaires au service civique. Donc, le service civique est un dispositif instauré par la loi numéro 2010-241 du 10 mars 2010, dont le décret numéro 2010-485 du 12 mai 2010 vient encadrer les dispositions. Ce dispositif est codifié dans le Code du service national. Les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés peuvent mettre en place l'engagement de service civique et ce, pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans un des 9 domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la nation. La solidarité, la santé, l'éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire et intervention d'urgence. Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager pour la période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif, typiquement. groupement, une association ou une personne morale de droit public, une collectivité locale, un établissement public ou au service de l'État pour accomplir une mission d'intérêt général dans des domaines ciblés par le dispositif. L'article L120-9 du Code du service national indique qu'une personne morale ne peut pas recruter un contrat de service civique pour exercer des missions relevant du fonctionnement général de l'organisme d'accueil ou confier des missions exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat. Les missions de service civique doivent permettre d'expérimenter ou de développer de nouveaux projets au service de la population, de démultiplier l'impact d'actions existantes en touchant davantage de bénéficiaires ou de renforcer la qualité de service déjà rendue par les agents à la population. À ce titre, le volontaire ne peut être indispensable au fonctionnement courant de l'organisme et ne pas exercer de tâches administratives et logistiques liées aux activités quotidiennes de l'organisme. Plusieurs conditions doivent être remplies par l'organisme d'accueil pour recourir au service civique. Les volontaires doivent être engagés sur des missions utiles à la société permettant de répondre aux besoins de la population et des territoires. Les volontaires doivent intervenir en complément de l'action publique et ne doivent pas s'y substituer. Et les missions proposées dans le cadre du service civique s'adressent à tous les jeunes de 16 à 25 ans, élargies aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans, et ne peuvent pas exclure les jeunes n'ayant pas de diplôme ou de qualification. Le contrat de service civique n'est pas un contrat de travail, il ne relève pas du Code du travail, mais du Code du service national. L'article L120-7 du Code du service national dispose notamment que le contrat de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre le volontaire et la collectivité qui l'accueille, à la différence d'un contrat de travail. Pour autant, la position du volontaire ne doit pas être celle d'un intervenant livré à lui-même, il reste soumis aux règles de service imposées par le cadre dans lequel il intervient. Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure d'accueil à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation des missions. Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale. Les frais d'alimentation et ou de transport pourront être couverts par la structure par le versement d'une indemnité complémentaire en application de l'article R121-25 du Code du service national. Une formation civique et citoyenne sera obligatoirement assurée au volontariat. Un référentiel de formation a été défini par l'agence de service civique. Monsieur le maire demande donc au conseil municipal donc de mettre en place le dispositif de service civique au sein de la collectivité. Donc il interviendra dans le domaine du sport, à savoir à l'école du sport. Donc on aura bien un intervenant titulaire à l'école du sport et le service civique en complément du 1er septembre pour une durée de 12 mois et le temps de travail sera de 24 heures. Autorisez monsieur le maire demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale chargée de la cohésion sociale et l'autoriser à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition d'éventuelles personnes morales. Mais décider d'inscrire les crédits nécessaires.
Des questions par rapport à cette mise en place d'un service civique dédié à l'école du sport? Je crois que c'est une bonne opportunité.
C'est une bonne opportunité, c'est un bon complément pour l'accueil de nos jeunes. Ça rentre dans une mission aujourd'hui qui sera totalement dédiée, avec une prise en charge éventuellement. Et le but du service civique aussi, peut-être demain, de donner envie à cette personne à prolonger sur cette fois sur des dispositifs plus formants, sur de l'animation, des BPGEPS, etc.
Des questions?
Bonne Di Paolo. Est-ce que c'est rémunéré?
Oui, oui, oui. C'est payé directement par l'État.
Donc il y a une indemnité versée par l'État, sachant que la commune qui emploie, il n'y a pas de relation d'employeur à salarié, mais peut verser une indemnité pour les frais de repas ou de déplacement. D'autres questions? Donc, je vais vous proposer de valider donc ce recrutement d'un service civique. Oui, Hubert. Demande de quoi?
D'une manière plus générale, moi j'ai souvent des associations sportives qui me contactent pour connaître les modalités d'embauche d'un service civique. Donc, il y a des sujets. Après, c'est aussi une mission d'accompagnement social. Donc, souvent, on s'aperçoit que ces dispositifs s'adressent plus à des collectivités comme nous, avec des missions bien spécifiques, plutôt qu'une association qui irait prendre un éducateur sportif comme service civique, parce que ça reste très encadré. Officiellement, le service civique ne peut pas encadrer seul un groupe. Il doit être obligatoirement avec son tuteur. Donc, il y a beaucoup de contraintes pour les associations. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes, mais elles ne débouchent pas forcément toutes. Et à la limite, je dirais que c'est un dispositif qui est plus adapté pour les collectivités comme nous, où on aura systématiquement un tuteur qui sera avec des missions bien, bien spécifiques.
L'autre difficulté, c'est qu'un service civique ne peut pas se substituer en termes d'activité à celle d'un agent. On ne peut pas dire on va prendre un service civique à la place d'un agent d'accueil. Donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que ce sont des missions qui sont prédéfinies, bien souvent limitées dans le temps, de façon ponctuelle. Sinon, ça serait trop facile de dire on prend du service civique en masse. Et puis, pour le deuxième élément de réponse, on n'est pas forcément cité par des jeunes de la commune. Et j'en veux un exemple, c'est que vous savez qu'on a l'été, on recrute des saisonniers sur des séquences de 2 semaines. On a un budget pour ça. Et on accepte les demandes d'emploi saisonnier, les CDD, jusqu'au début mars. On a un financement pour 15 à 18 CDD d'été au budget. Et les autres années, jusqu'à maintenant, on croulait sous les demandes. On avait 40 demandes. Pour 15 à 20 jeunes. Alors, bon, on regardait si c'était des jeunes qui avaient déjà bénéficié d'un CDD, on les reprenait pas, etc. Cette année, j'en ai 8, donc 3 qui se sont désistés parce que je leur proposais des périodes de travail au mois d'août, qui voulaient partir en vacances. Voilà. Donc, ça pose des questions sociétales. Tant mieux, hein, on fera des économies budgétaires. Mais ça pose quand même des questions. Bien, donc pour le recrutement de ce service civique, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, eh bien Rémi, on peut y aller alors. Très bien. Le point suivant, alors ça devient quelque chose qu'on vous présente à chaque conseil. Le jour où je ne vous en parlerai pas, vous me direz qu'est-ce qui se passe. Donc je vous propose de modifier le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er septembre 2023. Donc il y a 3 paramètres qu'on prend en compte. Porter la quotité de travail d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième et de première classe ouvert à 80,77% à temps complet. Donc c'est 80%, on les met à 100%. Supprimer un poste d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe ouvert par délibération 23-03-16 du 27 mars 2023 à temps non complet à raison de 50% du temps plein. Ça, c'est pour le recrutement à la médiathèque, et ouvrir un poste de volontaire service civique, on vient d'en parler, contrat de droit privé, pour une durée de 1 an à raison de 24 heures hebdomadaires dans le cadre de l'organisation de l'école du sport. Donc voilà, on actualise à nouveau le tableau des effectifs compte tenu des différents éléments qu'on vient de vous présenter. Des questions par rapport à ça? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le tableau est donc actualisé à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je vais passer la parole à Christine qui va nous parler de la convention de partenariat avec le département.
Monsieur le maire rappelle que la médiathèque départementale de la Loire, la MDL, apporte un concours au bon fonctionnement de la médiathèque André Chaise. Par son expertise, l'offre de formation, l'ingénierie culturelle et sociale, l'offre documentaire, donc les prêts de documents, les ressources numériques, les outils d'animation, etc. Il rappelle également les enjeux sociaux, culturels et économiques du développement de la lecture publique sur le territoire. Monsieur le maire présente ensuite le contenu de la convention de partenariat et d'objectifs proposés par le Conseil départemental. Préconisation d'un budget de 2 euros par habitant pour constituer, renouveler et maintenir un fonds documentaire de qualité. Préconisation d'un budget de 0,50 euros par habitant pour développer l'action culturelle sur le territoire. La formation des salariés bénévoles intervenant dans le domaine de la lecture publique avec notamment la prise en charge des frais annexes à ces formations. La gratuité d'accès à la médiathèque, aux animations et actions culturelles. Monsieur le maire précise enfin que les objectifs définis dans la convention feront l'objet d'évaluations qui seront présentées au conseil municipal en 2025 et à l'échéance de cette convention en décembre 2027. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat et d'objectifs avec le département de la Loire et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tous les documents s'y rapportant.
Avez-vous des questions par rapport à cette convention de partenariat qui va se signer, je pense, entre le département et toutes les médiathèques ou bibliothèques de la Loire, hein?
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que eux, dans la convention, je ne sais pas si vous avez fait attention, ils préconisent la gratuité. Alors à l'accès de la médiathèque, bien sûr, tout le monde peut aller à la médiathèque, mais aussi pour le prêt des documents. Donc là, j'avoue que...
Alors ils nous disent qu'il va falloir prévoir un budget de 2 euros par habitant pour se constituer un fonds de livres. Donc si 6 000 habitants à 2 euros, ça fait 12 000 euros. Mais en même temps, il va falloir que ce soit gratuit pour prêter les livres, les DVD et autres supports. Et ça, c'est les joies du cadre politique du département. C'est prévoyez de l'argent et faites la gratuité. Bon, voilà. Donc, on prévoira de l'argent, c'est-à-dire un budget, parce que de toute façon, chaque année, on fait un budget pour la médiathèque, mais on continuera à tarifer les prêts de supports, parce que c'est aussi une façon pour nous de fonctionner normalement, pas seulement sous les formes de prêts, mais également toutes les animations qui sont nombreuses et qui sont de qualité. Je le sais parce que je vois les factures et qui servent aussi justement à donner cette dimension à notre médiathèque. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour cette convention ? Donc, elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Je voudrais faire un point d'actualité, constatant que Mireille Papin, que je vous ai proposée comme secrétaire de séance, va vite partir demain matin pour quelques jours en vacances. Elle ne sera pas en capacité de signer le procès-verbal de cette réunion. Donc, en conséquence, je vous propose Christine Gezins comme secrétaire de séance pour signer les documents demain. Pas d'opposition ? Je vous en remercie. Elle ne nous a pas dit où elle est, mais je le sais. C'est bientôt les soldes à Paris, je crois. Bon, ben, je vais passer la parole à Claude Bruno, qui veut bien nous présenter la nouvelle composition du Conseil des Sages.
Oui, bonsoir. Donc, vous savez que le Conseil des Sages, c'est dans son règlement, doit être renouvelé tous les 3 ans. Alors, soit les sages décident de rester tous et on le renouvelle tel quel. Mais là, il y a une personne qui a désiré le quitter. Elle n'est pas fâchée, hein. C'est simplement que ça fait longtemps qu'elle y est. C'est Bernadette Granger. Et elle a décidé de quitter le Conseil des Sages. Donc, voilà la liste du nouveau Conseil des Sages. Les seuls changements apparaissent en fin de liste. C'est l'arrivée. Donc, il y a eu le départ de Bernadette Granger. Et on a l'arrivée de Monsieur Brenier, Jean-Lucien, qui lui s'était manifesté. C'est lui qui a demandé, il dit « moi j'aimerais bien faire partie du Conseil des Sages ». Et puis Madame Annie Bailly, que j'ai sollicité pour lui demander si elle voulait pas venir nous rejoindre. Voilà. Donc c'est pas un énorme changement, mais ça fait un delta de 3 personnes donc qui change. Tant que j'ai la parole, j'en profite aussi pour revenir sur un point qu'on a évoqué au début. J'ai oublié de t'en parler, peut-être. Au niveau des 2 autres personnes qui feront partie de la commission des listes électorales. Donc, a été volontaire pour être désigné, je crois qu'on peut le dire comme ça, parfois on est désigné volontaire, mais là, ça a été volontaire pour être désigné par le TGI, tribunal de grande instance. Madame Barou, Marie-Paul. et désigné par la préfecture, Monsieur Sabatin Henri. J'ai fini.
Donc pour clôturer ce conseil de façon officielle, je vous rappelle donc nos prochaines réunions le 14 juillet, bien sûr, sur la place, avec les différentes animations. Donc on a deux équipes constituées pour le trophée de la municipalité boule. Mixte. Très bien. Et donc, prochaine réunion officielle, prochain conseil, ce sera le lundi 4 septembre à 19h. Suivi, hein, je vous le rappelle, le 9 septembre, le matin, à partir de 9h, du forum des associations, de 9h à 13h. Je vous rappelle qu'au forum des associations, on en reparlera ben, justement lors du conseil du 4, les élus vont tenir une table destiné aux nouveaux arrivants, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de cérémonie de nouveaux arrivants en soirée. On sera présent sur le forum pour accueillir les nouveaux arrivants tout au long de la matinée. On aura un petit fascicule à leur proposer, et puis comme ça, ils seront en phase directe avec l'ensemble du tissu associatif de la commune. Et puis, pour celles et ceux qui ne l'avaient peut-être pas noté, nous aurons un séminaire le samedi 23 septembre, la veille des élections sénatoriales. Voilà, donc pour moi, le conseil municipal est terminé, donc on va arrêter l'enregistrement. Et si vous avez d'autres questions ou sollicitations,